Place Info.
Bonsoir et bienvenue, nous voilà à la une, retour sur le débat entre les trois candidates aux municipales à Paris. Vous le savez, c'était l'événement sur France Info et sur France 3 Île-de-France. La controverse également sur l'interpellation de l'infirmière dans la manif des Invalides. Nous évoquerons les propos de Manuel Valls dans Valeurs Actuelles et la sortie de l'état d'urgence discuté notamment à l'Assemblée nationale. C'est dans Les Informés avec Audrey Goutard, journaliste sur France 2, présentatrice de Ligne Directe sur France Info, la chaîne 27, avec Saveria Rojec, journaliste politique, auteur du livre Impitoyable, consacré à la campagne de Paris, qui est à paraître le 24 juin chez Stock. Patience. Avec vous, Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info, et mon complice Gilles Bornstein, éditorialiste à France Info. Bonsoir à tous les quatre. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Paris, la bataille, il faudrait dire la mère de toutes les batailles. Premier débat donc du deuxième tour entre Anne Hidalgo, Agnès Buzyn et Rachida Dati. Événement que vous avez donc vécu en direct sur France Info et France 3 Île-de-France avec Marc Fauvel et William Van Key. Premier tour de table et un affrontement quasiment à deux contre une tout au long du débat. Rachida Dati qui aura durement attaqué le bilan d'Anne Hidalgo.
Bercy-Charenton, détour. Saint-Vincent-de-Paul, détour. Le jardin Oasis sur le jardin de l'Atlantique entre le 14 et le 15e, détour. Le TEP Minimum-Longtemps, détour. Le parc, la friche SNCF. Attendez, je ne vous ai pas interrompu.
Non, je ne vous interromps pas.
La friche SNCF, ordinaire poissonnier, détour. Vous savez, j'ai calculé en nombre de mètres carrés. C'est deux cités de la Défense que vous allez bétonner dans Paris. Vous êtes la maire qui a le plus bétonné Paris, de tous les maires de Paris.
Alors, Saveria Rojec, elle aura cogné durement Rachida Dati sur la maire sortante. C'était sa cible ce soir.
Anne Hidalgo était la cible des deux, à la fois d'Agnès Buzyn et de Rachida Dati, ouais, parce que les deux ont le même objectif. Ce soir, elles ont tenté de convaincre, elles vont tenter encore les électeurs pendant 10 jours, de convaincre que le vote utile contre Anne Hidalgo, c'est elle-même. Donc, ou Rachida Dati ou Agnès Buzyn. Après, on a retrouvé une Rachida Dati qu'on connaît, c'est-à-dire, vous l'avez dit, assez pugnace, énergique, qui attaque effectivement le bilan, qui s'arrange parfois avec certaines réalités et certaines vérités, qui se recolorise parfois plus verte que verte, même s'il est bien difficile d'être plus verte que Anne Hidalgo à Paris. On l'a même entendu un moment dire, on n'a pas attendu Madame Hidalgo pour faire des pistes cyclables, on en a fait avec Monsieur Delannoy.
Oui, vous êtes maire depuis 6 ans, vous pensez être visionnaire, elles existaient avant, et Delannoy en a fait 1000 kilomètres.
Voilà, donc c'est cocasse d'entendre Rachida Dati revendiquer le bilan de Bertrand Delannoy.
C'est même Gilles Bernstein. C'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'on a tous, on observe la vie politique depuis un certain temps. Enfin, moi, il m'était pas apparu comme ça que Rachida Dati était la plus grande écologiste de la place de Paris. Donc venir, elle qui représente quand même une droite qui était productiviste, venir faire la leçon à Anne Hidalgo,
dont on pense du bilan de Delannoy.
Et voilà, venir faire la leçon à Anne Hidalgo sur sa politique écologiste.
Et sur la bétonisation.
Faut être gonflé, quoi.
Audrey Goutard.
Accusée, on l'a entendu dans l'extrait, Anne Hidalgo de bétoniser Paris, alors qu'effectivement, on a tellement reproché à Anne Hidalgo de redonner Paris aux Parisiens par le biais de, justement, d'espaces verts et de... Ça a été quand même le combat d'Anne Hidalgo pendant des années, se retrouver face à une opposition qui refusait les quais piétons, refusait les pistes cyclables, ou en tout cas leur extension, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on lui reproche d'être une bétonneuse.
Bétonneuse, oui. Jean-Jérôme Bertolus, vous diriez pour Anne Hidalgo que c'était un même pas mal. Ce soir, elle avait l'air assez détachée, finalement. C'était peut-être la seule posture à adopter face à ces deux rivales qui la piquaient au vif, hein.
Dès le premier tour, elle avait adopté, dans le débat du premier tour qu'on avait organisé sur France Info, France 3 et France Bleu, elle était déjà un petit peu la cible de toutes les attaques, de tous les candidats, et déjà, elle essayait de prendre de la hauteur. Donc là, ce soir, c'était vraiment très calculé, effectivement. Elle avait ce petit sourire en coin dès qu'elle était attaquée pour bien montrer l'inanité de ses attaques, et elle délivrait ses vérités, encore une fois. Ben voilà, elle a fait reculer la pollution tout court, la pollution sonore, les classes moyennes, sont à Paris comme comme poisson dans la rivière, puisque 80% des Parisiens sont de classe moyenne et de classe populaire. Voilà. Un petit mot juste sur Rachida Dati, si vous me le permettez, Jean-François.
Jean-Jérôme, allez-y.
On aurait pu penser que Rachida Dati, comme elle a d'ores et déjà gagné, en termes à la fois de ce qu'elle va représenter pour la droite, d'être arrivée en deuxième position, on aurait pu penser qu'elle gère son petit capital. Pas du tout. Cette agressivité de Rachida Dati, c'était pourquoi ? C'est parce que à 18h, quand il y a eu ce débat, elle s'est dit qu'il y a toute une partie, et notamment des Parisiens âgés qui sont chez eux, qui n'ont pas été votés, qui sont mon cœur de cible, je vais leur montrer qu'il faut aller voter, que le vote utile, c'est moi.
Oui, ça va, il y a Rejec. Est-ce qu'il y a aussi, s'il y a ces électeurs qui ne sont pas allés aux urnes, effectivement, vous avez raison, Jean-Jérôme Bertolus, mais il y a aussi les électeurs que, éventuellement, telle ou telle candidate peuvent se partager. Je pensais notamment à Agnès Buzyn et Rachida Dati.
Absolument. Ouais. Elle veut, Rachida Dati, elle parie sur deux choses. Elle parie effectivement sur une remobilisation de l'électorat qui n'est pas allé voter au premier tour. Elle considère que c'est celle qui a le plus pâti de l'abstention due au début de la crise le 15 mars, donc pour ce premier tour. Elle parie aussi sur le fait de siphonner l'électorat centriste de centre droit d'Agnès Buzyn en disant le vote utile contre Anne Hidalgo, c'est moi, il faut voter pour moi Rachida Dati qui suis l'original et pas Agnès Buzyn qui est la copie. Le en même temps, ça ne marche pas
à Paris. C'est pas vraiment un vote sauf que c'est pas vraiment un vote centriste le vote Rachida Dati aujourd'hui.
Vous diriez que c'est un vote qui va peu à peu plus à droite, hein, j'imagine.
Oh oui, c'est clairement...
Qui balance à droite un peu, non ?
C'est clairement un vote qui balance à droite. J'imagine qu'on verra l'extrait tout à l'heure. Mais bon, elle a reçu le soutien de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen. C'est assez difficile. Enfin, je comprends qu'elle joue ce rôle-là. Mais enfin, maintenant, elle a expliqué que c'est elle le réceptacle des voix centristes quand on a le soutien de toute la famille Le Pen. C'est... Enfin, je sais que Rachida Dati est tout à fait capable de l'expliquer. Mais c'est compliqué.
Allez, nous marquons une pause. 20h10 sur France Info. C'est le Fil Info avec vous, Frédéric Bagnada.
Fini les règles de distanciation physique en maternelle et une relative souplesse en élémentaire et au collège. Un protocole sanitaire allégé à l'école à partir de lundi. On essaiera de faire respecter un mètre. Si cette distanciation n'est pas possible, le port du masque sera obligatoire pour les collégiens, précise dans ce cas le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. L'infirmière interpellée Manu Militari en marge des manifestations de soignants à Paris est libre. Sa garde à vue a été levée, mais elle est convoquée devant le tribunal correctionnel le 25 septembre prochain. Elle a reconnu avoir craqué en jetant des projectiles sur les forces de l'ordre. Des vidéos montraient son arrestation musclée, ce qui a suscité une vague d'indignation, notamment dans l'opposition. Frappé de plein fouet par la crise sanitaire et malgré les aides de l'État, 8300 postes pourraient être supprimés chez Air France, selon l'agence Bloomberg. C'est 15% de ses effectifs. Toutes les catégories de personnel seraient concernées. 300 pilotes, 2000 personnels cabine et 6000 personnels au sol. Le 18 juin, avant l'heure de Marine Le Pen sur l'île de Sein, la présidente du Rassemblement national s'est rendue dans l'après-midi au monument des forces françaises navales libres. Un déplacement très critiqué qui a provoqué la colère des habitants. Suspendu pour cause de Covid, les Coupes européennes de football reprendront fin août. Finale le 23 août à Lisbonne pour la Ligue des Champions. Après un tournoi inédit à 8 équipes, ce sera le 12 août en Allemagne pour la Ligue Europa.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Anne Hidalgo est-elle portée dans sa campagne par sa gestion de la crise sanitaire ? La maire socialiste sortante est allée tout à l'heure pendant le débat sur le terrain des masques.
La ville de Paris, sur ces 6 dernières années, ne s'est pas trouvée en situation de pénurie de masques parce que nous avons, pendant les 6 ans, acheté des stocks de masques. Nous n'avons pas détruit les stocks de masques précédents, ce qui a permis, chère Rachida Dati, dès la première semaine de confinement, de donner 5 millions de masques que la ville de Paris a donné, 2,5 millions à la PHP, puisque les hôpitaux parisiens n'avaient pas suffisamment de masques pour engager la première semaine suite au confinement, de les donner aux médecins libéraux, aux infirmières libérales, de doter tous les EHPAD parisiens de masques. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais quand même pour établir des éléments de vérité.
Audrey Gautard, les masques, c'était pour le pire, là c'est pour le meilleur de la candidate. Vous pensez que ça peut peser, comme c'est un argument de campagne électorale ?
C'est un argument de campagne
électorale. Les masques pour les soignants, hein.
Absolument. C'est de toute façon un argument de campagne électorale à un moment où effectivement les soignants sont à juste titre, portée au nu par la population et par la population française. Dire qu'on a bien géré, aujourd'hui, c'est une bonne chose, puisque nous sommes face à un État à qui on reproche une gestion, en tout cas, du problème des masques, une gestion défaillante. Après, elle répondait aussi à Rachida Dati, qui lui disait que seule la région avait assuré et que la ville de Paris n'avait pas assuré. Donc effectivement, c'est toujours dans ce jeu du « je te réponds, je te donne, tu me prends ».
Apparemment, Jean-Jérôme Bertolus, les deux candidates, Anne Hidalgo et Rachida Dati, ont essayé de se partager, si je puis dire, l'influence, l'action, l'amitié même de Valérie Pécresse, la présidente de région. Non, elle est à moi, non, c'est la tienne.
Oui, absolument, mais cela dit, Rachida Dati, et ben finalement, c'est elle qui a arraché l'amitié de Valérie Pécresse. C'était pas gagné, hein. Et encore une fois, Rachida Dati, elle s'est imposée et elle s'imposera à la droite parce qu'elle a réussi, en quelque sorte, à dompter cette droite parisienne et francilienne. Encore une fois, Valérie Pécresse, au départ, c'était pas du tout évident qu'elle se rallie à Rachida Dati. Et finalement, elle s'est ralliée. Donc Anne Hidalgo, effectivement, qui sait bien que malgré ce qu'elle va prôner comme ralentissement de la vitesse sur le périphérique qui va bien emmerder, pas forcément les Parisiens, mais au premier chef, tous les Franciliens, Anne Hidalgo, elle sait qu'elle doit bosser effectivement avec la région Île-de-France, donc elle doit rester avec des bonnes relations avec Valérie Pécresse.
Alors petit rappel hein, des scores du premier tour, 29-3 pour Anne Hidalgo, il faut y ajouter les 10,8 de David Belliard puisqu'ils se sont paxés, les 22,7 de Rachida Dati et 17,3, elle est un petit peu derrière Agnès Buzyn, Savaria Rejet. Qu'est-ce qu'il y a pour la candidate de La République En Marche il faut aller chercher des électeurs qui au fond soient restés à la maison. Vous serez tenté par Rachida Dati?
Non, c'est très difficile. Moi, je pense que la position, on l'a vu pendant le débat, hein, la position d'Agnès Buzyn est extrêmement compliquée en ce moment, d'autant plus de par sa situation personnelle, c'est-à-dire qu'elle a été inexistante, inaudible pendant 2 mois, en tant que ministre, au-delà de tout ce qui a été dit, ce qui s'est passé et des propos qu'elle a tenus, en tant que ministre de la Santé, c'était intéressant d'entendre son opinion justement sur la gestion d'une telle crise sanitaire à l'échelle de la ville. Donc elle aurait pu se poser pendant cette période-là en tant qu'opposante à Anne Hidalgo, comme l'a tenté de le faire Rachida Dati. Rachida Dati, pendant 2 mois, on l'a entendu attaquer Anne Hidalgo sur sa gestion de la ville. Agnès Buzyn,
bien mot, ça va rien. Elle n'était plus certaine d'être candidate. C'est pour ça
absolument
qu'on l'a pas entendu, quand même.
Absolument, donc, mais elle a décidé aujourd'hui d'y retourner. Elle est silencieuse sur tout cet aspect, donc c'est extrêmement compliqué.
Sa position est
très compliquée à tenir. Elle est difficilement audible sur tous ces sujets, et notamment sur cette gestion de crise, sur les masques.
Saveria Rejec, vous qui sortez votre livre impitoyable le 24 juin, c'est-à-dire avant la fin de l'élection, vous avez déjà le résultat en fait, c'est ça l'idée. Vous pensez que l'élection est pliée? Est-ce que l'avance de la maire sortante est suffisante? Aujourd'hui, elle ne sera pas rattrapée? C'est un peu l'idée implicite?
Non, les électeurs sont rois, donc le vote n'est pas fait, il reste 10 jours de campagne, les Parisiens vont voter, comme tous les Français dans les villes où il y aura un second tour. Effectivement, force est de voir que les sondages montrent une certaine avance, certaine à Anne Hidalgo.
Gilles Dornstein.
Et en tout cas, voilà, non, ce qu'on peut en tirer comme enseignement, ce qui est certain, c'est l'échec également de La République En Marche, localement, la troisième voie qu'essaye de vendre aux électeurs Agnès Buzyn, le en même temps, ça ne marche pas. Ce qu'il faut en retenir aussi, voilà, c'est cette résurgence du clivage droite-gauche. Rachida Dati, vous l'avez dit, a fait une campagne très à droite. C'est une vraie droite. Elle n'a pas vendu un en même temps. Elle a vendu une vraie droite avec une campagne sur la sécurité, sur la propreté. Et elle a remobilisé son électorat sur ces thèmes-là. Anne Hidalgo, c'est une candidate social-démocrate, très écologiste. Donc voilà, c'est la résurgence de ce clivage-là aussi.
Et pourtant, Anne Hidalgo, Gilles Bornstein s'est fait épingler tout à l'heure assez durement, à mon sens, sur Autolib, Vélib, sur, effectivement, on l'a entendu l'extrait, la bétonisation, les tours qui sont érigées massivement dans Paris. Il y a quelque chose qui était de l'ordre du monde réel, de désagréable sur le bilan. Et pourtant, elle bénéficie de cette avance confortable décrite à l'instant par Savaria Rejec.
Oui, parce que Anne Hidalgo, il y a un an et demi, elle était vraiment très très mal partie, parce que effectivement il y a eu des événements qui ont permis à ses opposants de pointer un procès en incompétence. Autolib, Vélib, le contrat des panneaux publicitaires. Il y a eu un certain nombre de choses qui se sont mal passées et qui ont pu montrer, enfin certains l'ont accusé sur sa capacité, non pas de politique, mais sa capacité de gestionnaire, qu'elle n'était pas à la hauteur du poste. Et puis, la vie politique a fait son chemin. Emmanuel Macron, Paris, c'était Macronland. Emmanuel Macron a fait 90% des voix au deuxième tour de la présidentielle et de mémoire nettement plus de 30% au premier tour.
34, deux fois le score effectivement d'Agnès Buzyn au premier tour
Exactement. 34% des voix sur Paris, c'est absolument énorme. C'est absolument énorme. Donc Anne Hidalgo était très mal partie et puis il y a eu la politique nationale, il y a eu la grève qui l'a aidée parce que ça a montré que l'écologie ça servait et de fait aujourd'hui, en dépit des procès qui étaient faits il y a un an, aujourd'hui on voit mal. Pour répondre un peu plus clairement à la question que Savaria, qui est très prudente, et moi je ne le suis pas du tout, aujourd'hui, quand on additionne son score avec celui des écologistes, on voit mal comment elle peut perdre. Elle a réussi un exploit, Anne Hidalgo, après j'ai terminé, c'est que dans beaucoup de villes de France de gauche, les écolos ont devancé les socialistes, ont été assez proches des socialistes. Paris est la seule grande ville, encore une fois, en partie grâce aux grèves et grâce à sa politique, Paris est la seule grande ville où il n'y a pas eu photo, où elle a fait plus de deux fois plus. Alors presque
elle a cannibalisé,
vous dites, Savaria Rejec. C'est vrai, Jean-Jérôme Bertolus.
Siphonné.
C'est vrai que Jean-Jérôme Bertolus, pour La République en marche, c'était même pas un boulevard, c'était un périphérique. C'était un résultat acquis sur le papier.
Mais bien sûr, tous les députés parisiens La République en marche s'est fait un petit peu sur Paris. Gilles Lejean, bon, qui a peut-être un peu son avenir derrière lui, mais quand même, Gilles Lejean, le patron du groupe à l'Assemblée nationale, c'est un député parisien. 34% effectivement au premier tour de la présidentielle.
Stanislas Guérini.
Imperdable.
Voilà. Il y avait les forces en présence pour Emmanuel Macron et Agnès Buzyn.
On va commenter Lille, on va commenter Lyon, on va commenter Toulouse, mais on va commenter sans doute, pour reprendre effectivement les pronostics de Savaria et de Gilles, on va commenter l'échec de La République en marche à Paris.
Allez, 20h20 sur France Info, nous poursuivrons ce débrief de notre débat entre les trois candidates parisiennes. C'est l'heure du Fil Info avec vous, Frédéric Bagnada.
Garde à vue levée pour l'infirmière interpellée Manu Militari hier en marge de la manifestation parisienne des soignants. Elle est convoquée devant le tribunal correctionnel le 25 septembre prochain. Cette femme de 52 ans affirme avoir craqué en jetant des projectiles sur les forces de l'ordre, selon sa fille. Elle est sous le choc, épuisée physiquement et psychologiquement. Après British Airways, après Lufthansa, durement touchée par la crise sanitaire, Air France prépare à son tour un plan de départ volontaire. Plus de 8300 postes devraient être supprimés, selon l'agence Bloomberg. C'est 15% de ses effectifs, toutes les catégories de personnel seraient concernées. 13 ans après la disparition de la petite Maddy au Portugal, les enquêteurs n'ont plus aucun doute. Ils ont la preuve que la jeune Britannique est bien morte depuis l'arrestation d'un suspect, un Allemand actuellement en détention et qui vivait à l'époque à proximité de l'hôtel où séjournait la fillette. Francis Holm, définitivement condamné dans l'affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz en 86, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi aujourd'hui. Le tueur est condamné à la perpétuité. Il a toujours nié les faits dans cette affaire. Les internationaux de France de tennis à Roland-Garros, encore repoussés d'une semaine, le tournoi parisien se tiendra finalement du 27 septembre au 11 octobre afin de permettre aux joueurs qui participent à l'US Open début septembre d'avoir un petit peu plus de répit pour récupérer.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Seul moment de répit pour la maire sortante Anne Hidalgo, c'était à la fin du débat quand Agnès Buzyn a rappelé que les Le Pen, père et fille, avaient dit leur préférence pour un vote Rachida Dati.
Je dis simplement que Monsieur Le Pen père et Madame Le Pen fille ont tous les deux appelé à voter pour Madame Rachida Dati.
Ce sont leurs propos. Ils voulaient que je les ai réconciliés sur mon programme. Alors je vais vous dire, Madame Buzyn.
Ils ont appelé tous les deux à voter pour vous.
Avec Monsieur.
C'est là, c'est la différence. Je vous dire. C'est la différence entre vous et moi.
Vous dites même.
Je vais terminer ma phrase, Madame. Vous avez soutenu Sens commun. Vous avez voté contre le mariage pour tous.
Non.
Vous avez voté.
C'est faux. Je n'ai jamais été dans une manifestation de manif pour tous.
Vous étiez.
C'est faux.
Vous avez voté au Parlement européen contre. L'interdiction des thérapies de conversion pour les homosexuels.
Justement,
je pense que la communauté LGBT doit s'en souvenir. Oui. Et donc, vous avez eu des propos sur les migrants qui sont inqualifiable au moment d'un attentat raciste. Et je pense que tout ça fait qu'effectivement, vous attirez effectivement les votes de la famille Le Pen.
Audrey Gautard, elle fait de la politique quand même, Agnès Buzyn.
Oui, elle fait de la politique, mais elle s'adresse à un sacré morceau. Attaquer Rachida Dati sur cette thématique-là, l'accuser même d'avoir effectivement des phrases qu'elle a dites sur les migrants, etc. Vous avez vu la réaction. Alors pour les téléspectateurs, non, tout le monde n'a pas été téléspectateur de cette émission. Ça a été aussi entendu en radio. Donc, mais quand on regardait nous journalistes, la posture des uns et des autres, des unes et des autres, c'est vrai que c'était extrêmement. On sentait une violence et une colère entre ces deux femmes qui étaient assez troublantes parce qu'elles dépassaient la simple posture politique.
Schildbornstein.
Je suis pas convaincu. Alors je pense que sur les accusations de côté très réactionnaire de Rachida Dati, évidemment, il y a de la politique. Sur le soutien des Le Pen, je pense qu'elle ne fait pas de politique. Je pense que c'est elle qui parle. On sait qui est Agnès Buzyn. Agnès Buzyn est la fille d'Élie Buzyn déportée à Auschwitz. La belle-fille, l'ex-belle-fille de Simone Veil déportée à Auschwitz.
Ouais, je me souviens. La politique,
Là, c'est pas de la politique. Je me souviens d'une intervention où elle avait dit que pour elle, Marine Le Pen ne faisait pas, que le Front National n'était, à l'époque, n'était pas une force républicaine, et elle avait été reprise en disant on ne peut plus dire ça. Pour elle, je suis quasiment certain que la dédiabolisation, ça ne fonctionne pas pour elle. Pour elle, la fille et le père, c'est exactement la même chose. Et elle n'est pas prête à accepter le fait que les Le Pen, père ou fils, fassent partie du champ républicain pour les raisons historiques et personnelles. Donc pour elle, le soutien de la famille Le Pen à Rachida Dati n'est pas quelque chose d'innocent. Au-delà de la politique.
Je pense qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Rachida Dati, mais néanmoins, là, précisément sur cette question, qu'est-ce qu'elle peut y faire? En quoi est-elle responsable des propos, effectivement, de la famille Le Pen? Et que voulez-vous qu'elle réponde d'autre que, voilà, elle n'a rien demandé. Elle y avait déjà répondu une première fois quand Jean-Marie Le Pen avait fait une première déclaration il y a quelques mois. Elle avait dit, de toute façon, ils ne votent pas à Paris, ils votent à Saint-Cloud, voilà. Alors, mais effectivement, Rachida Dati ne peut pas faire grand-chose face à ce soutien.
D'accord, mais pour autant, je pense que Agnès Buzyn est honnête, enfin, elle est vraiment révoltée par ce soutien.
C'est une forme de sincérité qui s'exprime, c'est ce que vous voulez dire, Gilles Bornstein. Par-delà cet épisode de Savaria Rojec, dans votre ouvrage Impitoyable, qui va sortir donc, quelle date, rappelez-moi?
Le 24 juin.
Le 24 juin, chez Stock. Il y a des chapitres Griveaux.
Ah oui.
Parce qu'on a tous oublié cette affaire Griveaux, qui aura été quand même un moment absolument tragique dans cette campagne parisienne.
Oui, moi j'ai commencé à les suivre. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'ai commencé à les suivre parce que Paris est intéressant. Paris, effectivement, dans une élection municipale, ça devait être le trophée d'Emmanuel Macron. Paris était imperdable et ça s'est transformé en quelques mois en un chemin de croix pour Emmanuel Macron. Entre effectivement la division entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani, qui a ensuite fracturé le parti, l'affaire Griveaux avec un candidat officiel de la majorité qui explose en plein vol, Agnès Buzyn, et puis ça se termine avec la crise du Covid. Donc effectivement, Paris est imperdable. Donc moi, j'ai essayé vraiment de replacer ça dans cette perspective-là, et également dans la perspective de 2022. En ce qui concerne l'affaire Griveaux, je le traite comme un fait de campagne, un fait politique. Je pense que les lecteurs apprendront certaines choses qui n'ont pas lu dans la presse, mais c'est effectivement un fait politique majeur de cette année.
Jean-Jérôme Bertolus, Dati, Hidalgo, éligible pour 2022, si quel que soit le résultat, elles prennent une posture au-delà de Paris.
Vous aviez évoqué que c'est difficile de passer, si vous voulez, que ce soit du statut d'Anne Hidalgo qui revient de l'enfer, pour paraphraser un petit peu ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, justement, c'est-à-dire en très mauvaise posture il y a encore un an, à leader du deuxième tour, et pour Rachida Dati, avec une droite fractionnée, vitupérante,
compliqué,
les uns contre les autres. Les deux ont réussi leur pari. Mais de là à passer à l'étape suivante, oui, Rachida Dati, aujourd'hui, elle est parmi les 10 politiques les préférées des Français. Elle est devant François Baroin dans un sondage pour Paris Match. Mais de là à passer à la marche suivante, qui est la présidentielle, la marche est extrêmement, extrêmement haute.
Dernier mot avec vous, Audrey Goutard, pour boucler hein, cette demi-heure, pour nous avons revisité cette édition spéciale, ce débat à trois. Vous disiez tout à l'heure avec Nicolas Taillard, au fond, c'est l'émergence d'un c'est-à-dire dire duel, non, d'une belle bataille, parce qu'il y a trois femmes.
Ah oui, moi, ça m'a touché. Ça me touche.
Vous avez commencé par ça tout à l'heure.
Oui, lorsque je vois cette image de ces trois femmes, à titre personnel, ça me touche. Et je pense que ça touche beaucoup de Parisiens, beaucoup de Français. On se dit qu'on est enfin au 21e siècle, enfin ça existe et c'est une belle chose.
Et Marseille aussi pourrait bientôt
et ça mérite d'être souligné. Allez, il est 20h28 sur France Info. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la deuxième partie de S'informer.
Dix ans. Qui peut parier sur ce qui adviendra dans 10 ans? Eh bien, chez Honda, on n'a pas peur de parier sur l'avenir grâce à la technologie hybride de notre nouveau SUV. Avec le CR-V hybride et ses deux moteurs électriques, Honda vous offre la garantie moteur jusqu'à 10 ans et jusqu'à 6000 euros d'avantage client. On parie sur l'avenir. Et vous? Cherchez Honda CR-V sur Internet pour réserver votre essai.
Offre accessible aux particuliers et professionnels dans la limite des stocks disponibles et dans le réseau participant jusqu'au 30 septembre 2020 sur CR-V hybride 4 roues motrices immatriculées avec 0 km. Garantie moteur hors batterie, sous réserve du suivi régulier de l'entretien Honda selon les préconisations constructeurs et les indications de l'ordinateur de bord. Détails sur auto.honda.fr.
France Info, première plateforme d'information consultée au quotidien.
France Info, et tout est plus clair.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac de Météo France.
Peu de changements demain, encore des averses. De la Bretagne et de l'Aquitaine vers la Normandie, le centre, le Nord-Pas-de-Calais. Pas mal de nuages, quelques averses dès le matin, parfois un orage. L'après-midi, les averses orageuses se multiplieront. Elles concerneront aussi le bassin parisien, le massif central, les Alpes et les Pyrénées. Des éclaircies plus belles reviendront sur le littoral atlantique et au sud de la Garonne. Ce sera le cas dès le matin sur le nord-est, en vallée du Rhône, avec un peu de grisaille vite oubliée, parfois une petite averse. Près de la Méditerranée et en Corse, là, vous aurez du soleil, toujours avec un vent d'ouest jusqu'à 60-70 km à l'heure. Il fera 10 à 14 degrés le matin jusqu'à 18 pour le sud-est. L'après-midi, 17 degrés à Brest, 18 au Havre, à La Rochelle, 22 degrés à Lille, Paris, Mulhouse ou Toulouse, 23 à Lyon, 25 à Bastia et 28 degrés à Nîmes.
h 30 sur France Info, l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Le Covid-19 a fait 28 décès supplémentaires en France ces dernières 24 heures. Le bilan approche désormais les 30 000 morts depuis le 1er mars, d'après la Direction Générale de la Santé. La baisse du nombre de patients en réanimation, elle se poursuit. 772 ce soir contre 820 hier. Les assistantes maternelles pourront continuer au moins jusqu'à fin septembre à accueillir simultanément 6 enfants au lieu de 4. L'ordonnance présentée au Conseil des ministres prolonge également la prise en charge des actes de téléconsultation pour la médecine. Les enquêteurs allemands ont des preuves que Mahdi est décédé, des faits concrets, dit le parquet, qui a relancé l'affaire au début du mois en annonçant qu'il tenait un suspect, un Allemand en détention dans un autre dossier et qui vivait à l'époque en 2007 près de l'hôtel espagnol où la fillette britannique a disparu. Ludovic Piétenu à Berlin.
Cet Allemand de 43 ans est bien soupçonné de l'enlèvement et du meurtre de Mahdi. La justice allemande ne la considère pas comme disparue. Tout laisse penser qu'elle n'est plus en vie, disait il y a moins de 15 jours le porte-parole du parquet de Brunswick. Ce même porte-parole déclare aujourd'hui disposer de preuves, de faits concrets et non de simples indications qui appuient cette conviction. Toutefois, il ne s'agit pas du corps ou de restes du corps de la fillette. Ce ne sont pas des preuves dites médico-légales. Ce porte-parole refuse d'être plus précis. Selon des médias allemands comme Der Spiegel, il s'agirait de nombreux vêtements, dont trois maillots de bain pour filles, dont un rouge avec un insigne de natation allemand, un autre maillot noir et bleu de la marque allemande Adidas. Est-ce suffisant? Le parquet le croit et dispose en outre d'une clé USB contenant des milliers d'images pédophiles, dont certaines où le suspect se met en scène. Berlin, Ludovic Piétenu, France Info.
Marine Le Pen prend tout le monde de court. La présidente du Rassemblement National a débarqué aujourd'hui sur l'île de Sein avec 24 heures d'avance pour célébrer les 80 ans de l'appel du général de Gaulle. Elle était normalement attendue demain où elle n'était d'ailleurs pas forcément la bienvenue, puisque la cérémonie locale avait même été décalée pour qu'elle n'y assiste pas. 4 ans de prison pour Rifat al-Assad, l'oncle du président syrien, condamné à Paris. Il s'était bâti frauduleusement dans l'Hexagone un vaste patrimoine estimé à 90 millions d'euros et dont la justice française a ordonné la confiscation. Le tribunal n'a toutefois pas délivré de mandat d'arrêt contre cet homme de 82 ans aujourd'hui, résident britannique et absent du procès pour des raisons médicales. L'OMS va mettre à jour ses recommandations sur le traitement des personnes atteintes de Covid-19. Il s'agit d'inclure la dexaméthasone, un corticoïde bon marché et qui réduit la mortalité des patients atteints des cas sévères de la maladie, selon une étude de chercheurs britanniques. Et puis la Commission européenne annonce l'ouverture d'une enquête approfondie sur la fusion à venir entre PSA et Chrysler, avec ce mariage annoncé entre les deux constructeurs automobiles. 20h33.
France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Avec Audrey Goutard, journaliste sur France 2, présentatrice de Ligne Directe sur France Info à la télé, la 27. Avec Saveria Rojec, journaliste politique, auteur du livre Impitoyable, consacré à la campagne de Paris, à paraître le 24 juin chez Stock. Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info, et Gilles Bornstein, éditorialiste à France Info. Alors c'est une bataille d'images à laquelle nous aurons assisté depuis hier soir. Le contexte, cette manifestation pacifique des soignants qui arrivent sur l'esplanade des Invalides et des débordements, de la casse avec des black blocs et des autonomes. Il y a tout d'abord et cette interpellation musclée de cette infirmière d'une cinquantaine d'années qui suscite émotion et polémique, image largement relayée sur les réseaux sociaux, l'infirmière appréhendée sans ménagement qui supplie les policiers, je fais de l'asthme, je veux ma ventoline, mais il y a d'autres images qui sont aussitôt sorties sur les réseaux sociaux montrant la même infirmière jetant quelques instants plus tôt des projectiles sur les policiers en les insultant copieusement. Garde à vue levée, vous le savez, dans l'après-midi, elle a reconnu les faits. Elle a craqué, épuisement et colère contre l'État, a-t-elle dit. Convoquée devant le tribunal correctionnel le 25 septembre, Audrey Goutard, ce type d'incident désormais suscite une sorte d'émotion immédiate, pour ne pas dire une traînée de poudre.
Oui, et d'abord parce que c'est filmé. Avant, ça n'était pas filmé. Aujourd'hui, tout est filmé, tout est vu de part et d'autre. Voilà, premier point. Deuxième point, c'est on voit quand même des citoyens qui auparavant gardaient leur calme, aujourd'hui, qui sont, comme on dit, au bout du rouleau. Et on voit que effectivement, ce qui choque sur les ce qui nous choque tous, c'est de voir qu'une infirmière qui a eu le Covid, qui a travaillé comme une dingue, qui était de celles qu'on applaudissait, jette des pierres sur des policiers et en même temps est traitée par ces mêmes policiers qui doivent être au-dessus de tout soupçon, à savoir interpeller de façon digne. Oui. Attraper cette femme par les cheveux, à un moment donné, c'est filmé aussi, et pour la traîner vers l'extérieur. Voilà, et oui, ça choque les citoyens, et oui, ça crée l'émotion dont vous parlez.
Oui, Jean-Jérôme Bertolus, immédiateté, désormais. Alors, il y a même des élus de la France Insoumise qui sont allés aussitôt manifester devant un commissariat.
Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a indiqué, qui a tweeté qu'effectivement, la police gazait les soignants. Alors, il faut quand même remettre un tout petit peu les choses dans leur contexte. Il y a eu près de 200 défilés en France, des soignants. Il n'y a eu des incidents que dans un seul défilé, celui de Paris. Globalement, le défilé de Paris s'est plutôt bien passé. Ça veut dire que la majorité des soignants n'ont même pas été au courant lorsqu'ils défilaient qu'il y avait des incidents place des Invalides.
Avec même des applaudissements, des images d'applaudissements partagées entre gendarmes, forces de l'ordre et soignants.
Des CRS qui déposent leurs casques et des soignants, on le voit à l'image, qui déposent de leur côté leur blouse. Donc des moments forts. Qu'est-ce qui s'est passé place des Invalides? Moi, je ne sais pas effectivement si l'interpellation a été violente, parce qu'il y a une procédure judiciaire qui va commencer, et je pense qu'il faut
comment dire, être très prudent. Il y a ce qu'elle a reconnu, il y a les images. Maintenant, la police dit elle n'a pas été attrapée par les cheveux, elle a été attrapée par son sac à dos. Je n'en sais rien.
Oui. Et, nous avons
mais
analysé
surtout,
les images.
Surtout, quelques, surtout, juste d'un mot, il y a eu quelques centaines, effectivement, de manifestants qui ont cherché l'affrontement. La police y a répondu. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est, il y a une force des images, une force des réseaux sociaux, mais in fine, il y a quand même une question. Pourquoi la police n'arrive pas à isoler les casseurs, à faire du préventif en matière de force de l'ordre? Ça, je comprends pas.
Oui, je vais juste apporter une toute petite précision à Jean-Jérôme. Sur les images que nous avons analysées, dans la première partie, vous avez raison Jean-Jérôme, cette jeune femme est attrapée avec son sac à dos. Dans la deuxième partie, un autre temps de la vidéo, elle est bien attrapée par les cheveux.
Dont acte. Voilà. D'accord.
Alors, je vais vous faire réagir par la suite. Il y a eu cette question qui a été posée à Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement au sortir du Conseil des ministres.
À l'issue de cette manifestation, vous le savez, un certain nombre de casseurs, ce qu'on appelle les fameux Black Blocs, sont intervenus semant le désordre, et ce désordre, nous le condamnons évidemment fermement. Dans le cadre de l'intervention que vous évoquez, elle fait suite à un jet de projectile, me semble-t-il, par cette femme, et donc cette opération d'interpellation a été réalisée compte tenu du comportement antérieurement connu pour cette femme.
Savaria Rejec, cela va jusqu'au Conseil des ministres, vous voyez ce que je veux dire, c'est cela devient chaque fois une affaire nationale. Est-ce que c'est parce que nous sommes dans un contexte de dénonciation, de violence policière?
Non, mais parce que ces images aussi, elles choquent, elles font réagir de façon la plus immédiate possible. Elle a dit autre chose aussi, un peu plus loin, pendant le Conseil des ministres, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Elle a dit, je n'ai pas à être émue ou choquée par ces images. Et ça, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'effectivement, le public, les Français, tout le monde a été choqué par l'image de cette femme à genoux. Alors certes, effectivement, l'histoire, les vidéos montre qu'elle a, plutôt dans la journée, lancé des projectiles, attaqué effectivement les forces de l'ordre. Mais l'image d'une infirmière de 50 ans à genoux, en blouse blanche, traînée par les forces de l'ordre, elle est, quoi qu'il arrive, quelle que soit la réalité de cette interpellation, elle est, quoi qu'il arrive, désastreuse. Et donc, le gouvernement ne peut pas dire on n'a pas à être choqué ou ému de ces images. Il faut y répondre. Et par ailleurs, vous évoquez, ça c'est un autre problème, c'est l'infiltration, effectivement, maintenant systématique dans toutes les manifestations d'éléments d'ultra-gauche, de Black Bloc, qui font que ces manifestations, très souvent à Paris, dégénèrent quasi systématiquement.
Gilles Bornstein, nous sommes définitivement sous le registre de l'émotion.
Oui, parce que moi je suis d'accord, je suis ému et choqué par ces images. Je suis mais parfaitement d'accord avec Audrey. On n'aime pas, enfin moi, ce n'est pas la République que j'aime, que de voir, ce n'était pas une Black Bloc cette femme. Quand on manifeste, on a des raisons de manifester, on ne jette pas des pierres, on ne fait pas des doigts d'honneur aux policiers. Enfin, c'est pas la représentation que moi je me fais du droit légitime de manifester. Et quand on est policier, on n'arrête pas les gens de cette manière-là. Donc, dans cette image, c'est vrai que rien ne va. Audrey a raison de dire que ça existait certainement avant. Ce n'était pas filmé, ce n'était pas diffusé, mais rien ne va. Et ce qui ne va pas non plus, c'est que la radicalisation du débat politique fait que chacun se sent obligé de soutenir des comportements inacceptables. Que les partis de gauche et les insoumis soutiennent en gros l'attitude de cette femme, qui n'est pas normale, et que le gouvernement soutient l'attitude des policiers, alors que cette attitude n'est pas normale. Donc, en gros, dans cette image, rien ne va.
20h41 sur France Info, c'est le Fil Info avec vous, Emmanuel Langlois.
L'économie française, finalement, un peu moins durement touchée que prévu par le confinement. L'INSEE table désormais sur une chute de 17% seulement, si l'on peut dire, du PIB au deuxième trimestre de cette année, contre 20% selon une précédente estimation qui avait été publiée fin mai. Plusieurs centaines de salariés du groupe Renault ont manifesté devant leur usine de Flins dans les Yvelines. Ils protestent contre le plan de restructuration du constructeur automobile, au terme duquel ce site de Flins ne devrait plus produire de voitures neuves au-delà de 2024. Son interpellation musclée hier en marge de la manifestation des soignants a suscité la polémique. L'infirmière arrêtée pour avoir jeté des cailloux sur les forces de l'ordre comparaîtra le 25 septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. Elle a reconnu les faits au cours de sa garde à vue. Au moins 3000 victimes, 1500 agresseurs. Première évaluation de l'ampleur de la pédocriminalité dans l'église catholique en France depuis 1950. Résultat dévoilé par une commission indépendante qui doit poursuivre ses travaux jusqu'à l'automne 2021. Plus d'un millier de vols annulés aujourd'hui à l'arrivée et au départ des aéroports de Pékin. La mairie a fait refermer les écoles par crainte d'un rebond de l'épidémie de Covid-19. En l'espace de 5 jours, plus de 130 malades ont été identifiés dans la capitale chinoise. Et puis Roland Garros, à nouveau reporté, cette fois uniquement d'une semaine. Le tournoi est reprogrammé du 27 septembre au 11 octobre pour laisser plus de répit aux joueurs participants à l'US Open. L'hypothèse de jouer à huis clos, en revanche, est absolument écartée, affirme le président de la Fédération française de tennis.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Nous allons évoquer la sortie de l'état d'urgence sanitaire adoptée à l'Assemblée nationale. Mais tout d'abord, Jean-Jérôme Bertolus, quelques mots encore sur ses propos dans Valeurs Actuelles, apparaître demain dans le magazine, signé Manuel Valls. La lutte des classes disparaît au profit de la guerre entre races. Pourquoi cette déclaration choc de l'ancien Premier ministre?
Pourquoi, je ne sais pas, mais je trouve ça surprenant, et le mot est très faible, de la part d'un ancien Premier ministre, de la part d'un responsable de l'État. On parlait à l'instant de l'hystérisation du débat politique, du côté émotion qui prend le pas sur la raison et sur la complexité de faire vivre une nation, une société. Ces mots sont vraiment incompréhensibles pour moi.
Voilà. Oui, Gilles Bernstein. Ça va y arranger, allez-y.
Olivier Faure, oui. Le premier secrétaire du Parti socialiste, s'est dit consterné par ses propos. Je pense que je le rejoins là-dessus. J'essaye de minorer ma pensée. Je pense surtout, fondamentalement, ce que vous dites, que ça hystérise le débat et que tous ces débats ne font pas du bien à notre pays.
Oui, ça ne fait pas du bien.
Avec ces mots-là, ils ne font pas du bien à notre pays.
Il dit autre chose, Manuel Valls. Gilles Bernstein, il dénonce l'émergence d'une logique de la victimisation en référence, aux manifestations, aux rassemblements menés par la famille d'Adama Traoré.
Tout cela,
ça jette de l'huile sur le feu, selon vous?
Tout cela est-il aussi faux que ça? Alors certes, c'est un ancien Premier ministre. Quand il dit « la lutte des classes, la lutte des races remplace la lutte des classes », il ne dit pas que c'est une bonne chose. Il n'est pas faux de dire que les tensions identitaires... Il aurait dit les tensions identitaires au lieu de la lutte des races, ça aurait moins choqué. Mais enfin, ça fait quand même un certain nombre d'années en France qu'on sent des tensions, justement, autour de ces problèmes identitaires. C'est pas... C'est quand il avait parlé d'apartheid social, quand Gérard Collomb avait aussi eu des propos assez durs au moment de la passation de pouvoir place Beauvau. Enfin, un certain nombre de gens disent ça. Sur le plan de la constatation, on ne peut pas nier que les tensions identitaires aujourd'hui prennent plus de place en France. Alors peut-être ne devrait-il pas le dire. S'il veut rentrer au gouvernement, c'est sûr que c'est pas le meilleur moyen de dire ça, parce que toute la Macronie va hurler contre ses propos. Mais bon, voilà. Voilà.
Audrey Goutard, vous estimez que Manuel Valls, au fond, a une sorte de parler vrai, assez brutal d'ailleurs, mais qu'il cela dit des choses de ce que nous traversons aujourd'hui.
Les mots ont un sens. Ouais. Les mots ont un sens et race, ça a un sens très particulier. On ne parle pas de communautarisme. Effectivement, vous avez raison, Gilles. Aujourd'hui, on s'inquiète d'une remontée du communautarisme. On a vu des manifestations, notamment dans les soutiens. Pour le jeune Traoré, on a vu que des communautés s'élevaient pour soutenir, mais on a vu aussi beaucoup d'autres jeunes, beaucoup de gens de tous âges, de tous milieux et de toute origine. Le terme race, c'est un terme très particulier et je n'arrive pas à croire effectivement que M. Valls l'utilise par hasard. Donc l'utiliser à ce moment-là, peut-être, effectivement, c'est une façon de mettre le feu.
Jean-Jérôme Bertolus, encore un mot là-dessus.
Oui, évidemment, Manuel Valls cultive son parler vrai. C'est la fameuse les gauches irréconciliables, etc. Mais là, quand même, c'est un peu surprenant parce que il y a des questions sociales. En Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis a moins de profs que les autres départements. La Seine-Saint-Denis a moins de flics que les autres départements. Les préfets, il y a un turnover supérieur aux autres départements.
Tout ça, ce sont des constatations sociales, paraciales.
Etc. Et voilà. Ça, c'est pas du social. C'est de la guerre des races. Oui. Enfin, franchement. Oui. Où on est, quoi. Oui.
Puis il n'y a qu'une race, c'est la race humaine.
C'est la race humaine, nous dit ce soir Audrey Goutard. Belle conclusion. Allez, on va évoquer maintenant la sortie de l'état d'urgence sanitaire avec ces règles de distanciation physiques hein, à l'école maternelle qui seront abolies à compter du 22 juin, c'est lundi prochain, pour permettre le retour de tous les élèves. C'est ce qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, sur Public Sénat.
À l'école maternelle, vous n'avez plus de distanciation physique, c'est la même règle que pour les crèches. À l'école élémentaire, c'est assez voisin, puisque l'idée c'est qu'on essaye de faire respecter un mètre. Mais il y a certaines classes où, quand on recevra tous les élèves, parfois on sera obligé d'avoir un peu moins d'un mètre. Et donc c'est possible à l'école élémentaire. Et puis au collège, la distance d'un mètre doit être respectée. Et quand ça n'est pas possible, parfois pour des raisons physiques locales, alors le port du masque est obligatoire pour les collégiens lorsque cette distance d'un mètre n'est pas possible sur le plan latéral.
Savaria Rojec, cette annonce hein, de Jean-Michel Blanquer qui va soulager un grand nombre de parents, elle arrive un peu tard, c'est peut-être pas de son fait, mais il ne reste plus que 2 semaines.
Elle arrive tard et surtout elle complique énormément, enfin c'est kafkaïen hein, ce qu'on demande concrètement aux directeurs d'établissement et aux enseignants depuis déjà des semaines, depuis le 11 mai, la réouverture des premières classes.
Et aux parents.
Et aux parents également, mais en tout cas, les parents n'ont pas à subir les protocoles de l'éducation nationale. Il faut quand même rappeler peut-être à nos auditeurs, le premier protocole qu'on a imposé aux écoles faisait 60 pages.
Donc, oui,
quand je vous dis que c'est kafkaïen, voilà, 60 pages. On dit aujourd'hui, désormais, dès lundi, tous les élèves peuvent retourner à l'école. Mais on conserve, en tout cas en école élémentaire et au collège, le mètre de distanciation sociale. Comment on met 30 élèves dans une seule salle de 50 mètres carrés avec un mètre de distanciation sociale? C'est impossible, c'est ce que disent aujourd'hui à l'éducation nationale plusieurs directeurs d'établissement. Ils disent, nous, on ne peut pas faire d'ici lundi.
Audrey Goutard, nous sommes dans l'ordre du symbolique.
Évidemment que l'idée est de montrer que tous les élèves auront une fin d'année finalement et que tous les professeurs se retrouveront à un moment donné au sein de l'école. Après, ils ont un peu allégé, comme j'entendais le ministre dire que en maternelle, on ne pouvait plus demander aux élèves de distanciation sociale, etc. Ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, la nature humaine reprend le dessus et qu'un petit enfant, on ne peut pas lui demander autant. Mais voilà. Ensuite, moi, je pense que le gouvernement est tenu quand même d'avoir la plus grande prudence. La maladie court toujours. C'est pas derrière nous. Voilà. Ouais.
Jean-Jérôme Bertolus, il fallait cette conclusion pour remettre un petit peu les choses en ordre et peut-être même s'entraîner pour la rentrée dans les établissements scolaires. Je ne sais pas, c'est une question.
C'est une question, mais c'est tout à fait le point de vue qu'on peut avoir, effectivement, et sans doute qu'à Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire par rapport aux élèves qui ont un peu décroché, par rapport aux parents qui sont un peu dépassés. Il y a quand même des élèves, des mômes qui sont pratiquement hors du champ de l'éducation depuis plusieurs mois et qui le seraient jusqu'en septembre. Donc effectivement, qu'un cas, d'une façon un peu comme ça, oui, je pense qu'il a souhaité que ça soit 15 jours qui permettent... Et aux profs également de revenir un petit peu dans le système.
Des profs qui ont souvent travaillé massivement, mais à distance, à domicile, avec le net, avec des mails, et qui n'ont jamais décroché, contrairement à ce que ça a pu être dit un petit peu trop souvent. 20h50 sur France Info. Le fil info avec vous, le retour, Emmanuel Langlois.
C'était il y a quelques minutes, l'Assemblée vote le projet de loi sensible sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet, une sortie assortie d'ailleurs d'une période de vigilance durant laquelle des restrictions resteront possibles. Les oppositions dénoncent un texte attentatoire aux libertés et un état d'urgence qui ne dit pas son nom. 3 personnes, dont 2 adolescents mis en examen pour violence volontaire à Lyon, jusqu'à présent inconnues des services de justice. Elles sont soupçonnées d'avoir agressé un policier alors qu'il rentrait chez lui avec sa compagne dans la nuit de samedi à dimanche au cours d'une bagarre auquel a pris part une dizaine de personnes au total. La distanciation physique assouplie dans les écoles à compter de lundi prochain, le 22 juin. Jean-Michel Blanquer, le ministre d'éducation, annonce que le nouveau protocole sanitaire va être diffusé dans les prochaines heures. La règle de 4 mètres carrés de surface par élève devrait ainsi être abolie, à l'intérieur comme à l'extérieur. En maternelle, plus aucune règle, non plus de distanciation entre les élèves d'une même classe ou d'un même groupe ne s'imposera. C'est le premier opérateur touristique de l'Hexagone. La direction de TUI France supprime près de 600 postes en raison des effets de la crise sanitaire, soit les 2/3 de ses effectifs. La mesure avait déjà été prise dans de nombreuses régions. Dans l'Hexagone, les casernes de pompiers parisiennes n'organiseront pas cette année, elles non plus, leur traditionnel bal populaire du 14 juillet en raison du contexte d'état d'urgence sanitaire. Et puis la compétition avait été suspendue mi-mars à cause du Covid-19. La finale de la Ligue des champions de football, elle aura lieu le 23 août à Lisbonne. C'est ce qu'annonce l'UEFA. à l'issue d'un tournoi final inédit qui réunira 8 équipes dans la capitale portugaise.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Le projet de loi de sortie de l'état d'urgence évoqué à l'instant par Emmanuel Langlois, adopté donc à l'Assemblée nationale, et Olivier Véran, le ministre de la Santé, à la tribune, a évoqué notamment l'inquiétante situation en Chine.
La situation chinoise à Pékin, qui ferme toutes les écoles, qui arrête les avions, les vols commerciaux, montre bien que personne n'est à l'abri d'une reprise épidémique et qu'il faut donc des outils pour pouvoir la combattre. Le gouvernement ne demandera pas de nouvelles prolongations de l'état d'urgence sanitaire. Vous le savez, il prendra donc fin le 11 juillet prochain, une date qui a d'ailleurs été déterminée par les parlementaires eux-mêmes. Mais cette sortie de l'état d'urgence sanitaire doit être organisée parce que la vigilance reste de mise et que de nombreuses mesures restent nécessaires dans les prochains mois.
Gilles Bornstein, est-ce que les oppositions de droite comme de gauche ont raison de dénoncer un texte qu'elles jugent liberticide ?
J'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne suis pas capable de juger. Enfin, je vois bien les outils qui sont mis en place. Je vois bien ce qu'ils ont de liberticide. Ce qu'on n'est, nous, pas capable de juger, c'est est-ce qu'ils sont nécessaires pour lutter contre l'épidémie au point où en est l'épidémie. Et honnêtement, évidemment, les choses liberticides, ça m'amuse pas. Je suis comme tout le monde. Je n'ai pas envie d'une société de surveillance. J'ai pas envie que l'État sache tout le temps où je suis. Je n'ai pas envie que les différentes manifestations de l'état d'urgence, restent dans une législation ordinaire. Maintenant, est-ce que c'est le bon curseur ? En fait, c'est la question du curseur. Est-ce que ça met le curseur au bon endroit ? Honnêtement, je pense que j'en sais rien.
Ça va dire, Roger, que c'est un débat qui ne sera jamais achevé au fond.
Ce qui est surprenant, surtout, vous avez raison. Ce qui est surprenant, c'est que c'est un texte qui est précis. Dans l'intitulé consacré à la fin, à la sortie de l'état d'urgence, ça organise la sortie de l'état d'urgence, et en réalité, dans les faits, ça prolonge les mesures d'exception qui accompagnent de fait cet état d'urgence. C'est-à-dire qu'on va de facto en sortir selon la loi le 10 juillet, mais les mesures, le gouvernement pourra continuer à utiliser les outils que lui donne ce texte jusqu'à l'automne. Alors, Olivier Véran a raison quand il dit, on fait ça parce que si, regardez la Chine, s'il y a de nouveau des clusters, s'il y a de nouveau des foyers, il faut qu'on puisse réagir rapidement. Maintenant, vous demandiez à Gilles Morchan si, effectivement, c'est inquiétant. Moi, je suis comme vous, je suis pas capable de... néanmoins, j'ai lu un point précis sur la collecte des données. Par exemple, on prolonge le fait de pouvoir collecter toutes ces données sanitaires, les données des
Français. C'est un peu le sujet central.
Voilà, l'ordre des médecins, précisément, s'en était ému. Ils ont fait part de leur vive inquiétude. Quand ce texte, cette loi a été votée, ça devait durer que 3 mois. Ben là, on nous dit, vos données, finalement, on décide de les collecter pour une durée, pour l'instant, indéterminée.
Oui, Audrey Gautard, il y a une sorte de message contradictoire. Il faut à tout prix, au fond, se déconfiner, pardon pour le néologisme, accélérer cette sortie de l'état d'urgence, ouvrir les écoles, faire tourner les usines. Et puis, vous avez Pékin qui ferme les portes, qui arrête ses vols. Parce qu'au fond, alors qu'il fait chaud à Pékin en ce moment, c'est presque une température estivale, eh bien l'épidémie repart.
L'épidémie repart, attention, à Pékin, c'est une centaine de...
clusters.
De petits clusters, c'est une centaine de personnes même.
Une première vague aussi à Pékin.
Une première vague. Et effectivement, là-bas, ça ne rigole pas avec, ils ont l'expérience de Wuhan et ils ne veulent surtout pas prendre le risque de reproduire cette expérience-là. Donc évidemment, à l'aune de ce qui se passe à Pékin, on s'interroge en France sur ces mesures qui sont à la fois insupportables, mais en même temps peut-être nécessaires pour préparer la rentrée. Néanmoins, je comprends ceux qui s'interrogent, parce que je vous rappelle quand même que ces mesures d'exception, nous les vivons depuis 2015, depuis les attentats. Finalement, on est quand même la première génération à se retrouver depuis près d'une décennie dans une longue mesure d'urgence qui ne s'arrête pas et qui saute de crise en crise. C'est assez...
Est-ce qu'il y a un paradoxe, Jean-Jérôme Bertolus, sur le maintien de ces mesures évoquées à l'instant par Audrey Gautard et en même temps le démarrage de cette commission d'enquête sur justement peut-être les ratés ou la mise en place des mesures pendant la gestion de la crise sanitaire?
Un petit mot, Audrey a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'une fois que l'État goûte à l'état d'exception, en quelque sorte, qui lui permet de prendre des mesures rapidement en contournant le Parlement, Après, l'État a tendance à instaurer ces
parce que c'est confortable.
Dans le droit commun, c'est confortable. La seule chose que ne pourra pas permettre cet état d'urgence, c'est le reconfinement. Ça veut dire que c'est exactement la situation française, ça pourrait être la situation chinoise. Il s'agit de clusters, il ne s'agit pas d'un retour de l'épidémie. Là, il faudrait repartir dans l'état d'urgence. Maintenant, oui, vous avez raison, il y a un certain paradoxe, c'est-à-dire que on va dire que le calendrier de cette crise politique, enfin, ou de cette crise sanitaire s'entrechoque. Démarrage de la commission d'enquête, fin de l'état d'urgence, et puis bientôt on va avoir aussi la mission administrative voulue par l'Élysée sur le bilan sanitaire, enfin sur la façon dont la France a vécu cette crise sanitaire. Donc effectivement, oui, on vit une période très dense.
Allez, c'est la fin des informés de France Info. Merci à tous les quatre. Je rappelle, hein, Savaria Rojec, votre ouvrage impitoyable, on a hâte de le lire, hein, qui sort le 24 juin chez Stock, avec peut-être le résultat de l'élection à l'intérieur. Je plaisante. Merci à tous les quatre, Audrey Goutard, Savaria Rojec, Jean-Jérôme Bertolus et Gilles Bernstein d'avoir participé à cette édition des informés de France Info.